Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Vous voulez comme chef?
Oui!
Voici mes lois. Pas de meurtre. On ne s'attaque qu'aux grands. À nous autres, donc!
RTL.
Mais qui es-tu?
Cartouche. Avec un grand C.
Jusqu'à 22h.
Cartouche.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il a inspiré le théâtre et le cinéma. On se souvient tous de ce personnage interprété par Jean-Paul Belmondo, mais qui était vraiment Cartouche. On vous raconte son histoire grâce à notre invité, Gilles Henry. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes écrivain, historien. On va décrire évidemment qui était Cartouche, quand il vivait. Mais d'abord, une histoire, une anecdote pour commencer. Un soir, Cartouche, après avoir gagné au jeu, traverse la Seine. Alors, on s'imagine, on est à Paris, sur l'île Saint-Louis. Et là, devant la statue de Henri IV, il voit un homme qui va se
s'apprête
à se jeter dans la
Seine. Franchir le parapet.
Alors, qu'est-ce qu'il fait, Cartouche ?
Eh bien, il agrippe le personnage et il le dissuade de faire le mauvais geste, ne pas se suicider. Et l'autre dit, mais laissez-moi, je dois me suicider car je ne pourrai pas résister à la faillite de mon entreprise.
C'est qui cet homme ?
Alors cet homme, eh bien c'est un commerçant qui travaille dans le tailleur.
Et qui, marchand de draps.
Et qui a fait de mauvaises affaires. Et il est amené à rembourser ses créanciers, ce qu'il ne peut plus puisqu'il n'a plus d'argent. Alors Cartouche essaie de le dissuader, il arrive à le convaincre. « Cher monsieur, surtout ne sautez pas dans la Seine. Je vous promets demain de vous apporter la somme que vous devez. D'abord, combien devez-vous ? Oh, 27 000 livres, c'est énorme. Ne vous inquiétez pas, je vous apporte la somme demain. » L'autre est ébahi, n'en croit pas ses yeux. Il dit « Mais enfin, qui êtes-vous ? Ne vous inquiétez pas de ça, demain chez vous. » Il donne son adresse, rue Verdelet. Et le lendemain, à 20h, comme c'était prévu, enfin du moins le soir, rue Verdelet, au domicile du commerçant, arrive Cartouche, les poches pleines des ressources financières dues à un gain de jeu.
Donc des 27 000 livres.
Voilà,
en
27 000 livres, ce qui n'est pas une paille. Et les créanciers, évidemment, dans la journée, ont été prévenus. Et les créanciers sont là tout autour de la table, très menaçants et en tout cas prêts à faire mettre en faillite le bonhomme, puisque leur argent n'est pas là. Et voilà que le miracle se produit. Cartouche sort l'argent de ses poches et rembourse à chacun les sommes qui lui sont dues.
C'est trop beau pour être vrai, ça, Gilles Henry.
C'est peut-être trop beau pour être vrai. Ça fait partie un petit peu des légendes qui accompagnent la vie de Cartouche.
Qu'est-ce qui va se passer après ?
Alors là, pour ce qui est de cette anecdote, en tout cas, eh bien, tout simplement, le patron sauvé respire et dit « on va arroser cela ». Et Cartouche dit « mais oui, bien sûr. Avez-vous du bon vin ? J'aime bien le vin de Bourgogne ». Et le commerçant fait monter ses bouteilles de sa cave. Une tournée, deux tournées, trois tournées. Les esprits sont échauffés maintenant. Et Cartouche dit, bon, il est peut-être l'heure de partir. Et tout le monde s'en va. Le commerçant reste chez lui. Les créanciers sortent. Et ils n'ont pas fait 200 mètres qu'ils sont entourés, agrippés et dévalisés par... Par qui ? Eh bien, par les complices de Cartouche, les cartouchiens qui tiennent le pavé de Paris et qui récupèrent l'argent que Cartouche avait gagné au jeu. Et comme ça, c'est une opération blanche.
Vous me direz. C'est Robin des Bois, alors, Cartouche ?
C'est un petit peu, oui, hein, en tout cas, un des qualificatifs qu'on a pu lui donner plus récemment. C'est un personnage qui est réputé pour voler les riches pour redonner aux pauvres.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça.
On va pas tout à fait.
Voilà, on va recommencer dès le début. Cartouche, on est à quelle époque et dans quelle famille il naît ?
Cartouche représente exactement la période de la Régence. La Régence va de la mort de Louis XIV en 1715 à la mort du régent duc d'Orléans 1723 et du cardinal Dubois. J'ajouterais même de la majorité du roi Louis XV 1723. Donc une courte période. Et dans cette période, encore un petit peu plus étroite, les années 1717-1721, puisque nous le verrons tout à l'heure, il va être exécuté en 1721, le 28 novembre. Donc vous voyez, une période très courte, mais une période pendant laquelle Louis, Dominique, Cartouche et ses équipiers, ses acolytes, ses complices vont tenir réellement le haut du pavé de Paris en narguant la police, en narguant le lieutenant général de police, le guet, les gens du Châtelet, les procureurs et tout, par le biais des vols, mais aussi, hélas, on le verra, des assassinats.
Cartouche, Gilles Henry, c'est son vrai nom ?
Cartouche, c'est son vrai nom. Vous me direz, on trouve encore des encyclopédies qui indiquent qu'il s'appelle Bourguignon Guy Cartouche, ouais. Alors que c'est totalement l'inverse. C'est bien Louis-Dominique Cartouche, dit Bourguignon parce qu'il a volé un passeport et qu'il montre, il prend l'identité. Il se nomme aussi quand il est arrêté. Il dit également s'appeler Delamarre, ça c'est le nom de sa mère. Il dit également s'appeler L'Enfant, ce qui est un surnom.
Pourquoi également parce qu'il est tout petit, chevalier. C'est ça ?
Alors, il est de petite taille, effectivement. Alors, il est surnommé L'Enfant, ou parfois le Petit Chevalier, ce qui montre bien qu'il n'est pas de grande taille. D'ailleurs, il a deux frères, un tout petit peu plus jeune que lui, qui sont également de petite taille.
Gilles-Henri, quand et pourquoi Cartouche commence à voler ?
Alors, c'est peut-être encore ce qui fait partie de la légende de Cartouche. Pour une belle, comme l'on dit un petit peu à l'époque,
par amour. Oh,
il fallait offrir un cadeau. Alors, comme il n'y avait pas assez d'argent à la maison, ou du moins qu'il ne l'a pas trouvé, eh bien, il est allé le chercher, c'est-à-dire qu'il est allé le voler.
Son père était tonnelier, c'est ça ?
Alors, son père était tonnelier. Là, il y a, sur le plan de l'histoire, j'ai eu l'occasion... Toutes les révélations que je peux faire dans ce livre-là proviennent de documents authentiques que j'ai recueillis aux
Cartouche
Archives nationales.
Cartouche, roi du pavé de Paris, aux éditions du Rocher. Pardon.
Tous ces documents-là ont été trouvés aux Archives nationales et particulièrement dans le minutier central, c'est-à-dire les minutes des notaires. On a là une montagne de documents. Paris compte 122 études de notaires et donc on a une masse gigantesque, un gisement énorme de documents. Et donc c'est à partir de certains de ces documents que j'ai récupérés que l'on peut, touche par touche, reconstituer l'histoire de Cartouche. Alors, le nom de Cartouche, est-ce réellement son nom ? Son père est un Allemand, j'ai retrouvé, après de longues recherches, j'ai retrouvé son acte d'inhumation en Normandie, et le 1er novembre 1737, on a inhumé le corps de, en marge de l'acte, et bien marqué Jean Cartouche, et le corps de l'acte, le curé a bien marqué qu'il se nomme Jean Garthausen, natif de Hambourg, donc un Allemand, à l'âge de 79 ans. À partir de cet acte-là, j'ai essayé de retrouver l'origine de la famille. Donc un père allemand qui a épousé une Française, vraisemblablement une Normande, du nom de Delamarre.
Garthausen, de Garthausen à Cartouche.
Alors,
on peut imaginer que ça...
Les Français ont eu bien sûr du mal à prononcer le nom, ils l'ont écorché, et Garthausen a fait Garthausen, Garthausen a fini par donner Cartouche, puis Cartouche.
Voilà, face à Cartouche, il y a la police du roi, ou en tout cas de la Régence, leur combat va devenir sanglant. On vous le raconte ce soir sur RTL.
Bienvenue sur RTL, les curieux. Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. RTL.
Et ce soir, sur RTL, on vous propose un voyage dans le temps, du temps du roi Louis XIV, dans le Paris du brigand Cartouche. Gilles-Henri, on a raconté d'où venait Cartouche, mais comment est-ce qu'il va constituer sa bande de mercenaires, de brigands ? Il va d'abord s'associer à un certain Grutus du Châtelet. Qui est-il ?
Oui, alors Grutus du Châtelet, c'est un ancien soldat qui, comme bien d'autres, a participé aux campagnes de Louis XIV, et puis après le traité de la paix d'Utrecht, est revenu du service militaire, pourrait-on dire, et est revenu sur la capitale comme quantité d'autres hommes. Alors voilà des gaillards qui se sont battus, qui ont fait face au feu et qui ont toujours un retour un petit peu difficile dans la société civile, dirions-nous aujourd'hui. Alors il va y avoir comme une transformation de ces personnages qui vont essayer de trouver de l'argent facile, et quoi de plus facile que d'essayer de le voler sur les honnêtes gens.
Donc ils créent quoi, une bande de voleurs?
Alors,
tous les deux, c'est ça ?
Tous les deux, chacun de son côté, a un certain, nous dirions, des réseaux, des amis. Ce sont des artisans, des cabaretiers, enfin disons des lieux de vie où il peut y avoir des rencontres inattendues, et en tout cas des lieux qui vont servir pour écouler des receleurs, en quelque sorte ça servira plus tard à écouler la marchandise volée. Donc on a deux équipes qui se constituent, mais Cartouche, comme Grutus du Châtelet, reste très prudent et ne à part leurs acolytes les plus proches, ne divulgue pas en quelque sorte leur montage. Si bien que les deux groupes de cartouchiens ne savent pas trop, ignorent même qu'ils appartiennent à un seul groupe.
Alors justement, Cartouche, il s'avère qu'il a créé une organisation du crime.
Voilà, c'est un début d'organisation du crime, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'instinct de vol, et puis les capacités. On a vu tout à l'heure qu'il a commencé par voler quelque argent pour pouvoir faire plaisir à sa belle. Ensuite, ça, évidemment, ça s'est élargi. Et puis, il a vécu plusieurs expériences. Il a été laquais du marquis de Saint-Arbre, vendeur de chevaux. Il a fait un petit peu tous les métiers avant, si on peut dire, de s'établir à son compte et effectivement de recruter, en tout cas de s'associer à Grotius du Châtelet.
Cartouche, est-ce qu'il entraînait sa bande de cartouchiens, c'est-à-dire il leur donnait des trucs pour bien voler? Alors, il y avait un entraînement physique.
Voilà, c'est un petit bonhomme, Cartouche, mais qui a beaucoup d'énergie. Et on verra par la suite que même un policier émérite, comme Thomas Simon Guelette, qui est le substitut du procureur royal, notera sur l'arrêt du Parlement et écrira des desiderata qui sont tout à fait favorables à Cartouche.
Vous l'avez lu, ce document? Vous l'avez retrouvé dans les archives?
Oui, il est aux Archives nationales. Mmh. Et donc, c'est un compliment sur un personnage qui aurait mal tourné. Mais donc, ça veut dire qu'il avait des qualités particulières au départ.
Il apprenait à ses cartouchiens à voler sur un mannequin.
Alors, sur un mannequin,
avec quoi? Avec des grelots, c'est ça?
Avec des grelots, voilà. De telle façon que l'on puisse essayer de voler, de plonger la main dans la poche sans faire bouger les grelots, bien entendu, sinon on rate le tour. Et donc, bon, on dit que les Parisiens sont badauds. Alors, les attroupements sont assez nombreux. Et les petits, tels que Cartouche, ses frères aussi, et peut-être les autres, en profitent pour évidemment couper les cordons des bourses, claquer d'un coup sec les gardes d'épée et voler dans les poches les mouchoirs en batiste, les petits objets, tout un commerce qui ensuite va pouvoir être vendu, en particulier chez les cabaretiers qui sont receleurs et qui font partie de la bande de Cartouche.
Face à Cartouche et ses cartouchiens, la police de l'époque, donc on est que fait la police? On est sous la régence, donc 1710, c'est ça ce que vous dites à peu près?
Voilà, 1715-23.
Évidemment, ils n'ont pas énormément de moyens, hein, c'est pas la police scientifique d'aujourd'hui. Donc,
Alors c'est quand même, il y a eu un développement avec la mise en place avec Nicolas de l'Araignée, un petit peu plus, enfin sous le temps de Louis XIV, et donc on a un début de structure avec le lieutenant général de police et qui a quand même un certain nombre d'équipes de policiers.
Mais pour identifier par exemple les voleurs, alors, est-ce qu'il y a des moyens d'identification?
Il y a des moyens très simples qui existent d'ailleurs encore aujourd'hui. Le portrait robot, alors le portrait robot n'existait pas forcément comme tel, mais on trouve dans les archives de nombreuses descriptions physiques de tel ou tel personnage donné par tel ou tel témoin. Et évidemment, on parle de la taille, on parle de la couleur des cheveux, des yeux et éventuellement des cicatrices ou autres.
Mais alors, si Cartouche était très petit et donc il faisait 1m30, il était très reconnaissable, pourquoi est-ce qu'il a échappé autant à la police?
D'une part, parce que précisément il est petit, qu'il peut se glisser un petit peu partout. Et ça a été le cas. Et également parce qu'il devait avoir aussi un petit tour d'avance sur les policiers. On le voit en particulier lorsqu'il est pourchassé par les sbires du lieutenant général de police. On fait ce qu'on appelle un cri pour prévenir qu'il va être arrêté. Et devant tous les témoins qui sont là, brusquement, le lecteur s'arrête, s'interrompt. Il vient de voir qu'il est entouré entièrement par des personnages armés de gourdins, armés d'épées, armés de pistolets, qui sont tout simplement, il le sent bien, les cartouchiens. Alors, il arrête, la police renonce et il s'en va. Et les cartouchiens sont restés maîtres du terrain.
D'un mot, le lieutenant général de la police parisienne, c'est monsieur d'Argenson. Il va lui aussi subir une attaque de Cartouche et de ses hommes.
Alors, il y a plusieurs. Évidemment, les lieutenants généraux de police se succèdent. D'Argenson, après l'Araignée, il y a Machaut d'Arnouville, il y aura plus tard René Hérault. Tous les responsables de la police, évidemment, non, c'est l'ennemi public numéro un. Il est devenu l'ennemi public numéro un, à la fois par son travail à lui tout seul et en même temps par ses complicités. Et par exemple, dans la composition de son équipe, il a un nommé Balagny, dit le Capucin, parce qu'il se déguise en curé. Ils ont beaucoup de surnoms ou de pseudonymes. Et Balagny a pour oncle Ponce-Coche. Et Ponce-Coche est tout simplement le valet de chambre du régent. C'est dire qu'au plus près du pouvoir, on a des informations dans l'équipe même de Cartouche. Ce qui permet quand même de bâtir ce coup d'avance dont je parlais tout à l'heure et de pouvoir narguer la police.
Un meurtre va faire basculer le destin de Cartouche et son dessin aussi. Un meurtre et une trahison. On vous raconte comment le roi du pavé de Paris a fini sur l'échafaud.
Vous écoutez RTL.
C'est vous qui affamez le peuple?
Qui êtes-vous, monsieur?
On m'appelle Cartouche.
Brigand légendaire.
au cœur noble. RTL.
Les cartouches et trouvez le vite. C'est sur moi.
Bandit de grand chemin, au grand cœur. La curiosité est un vilain défaut.
Cartouche nargue les bourgeois jusqu'à 22h.
Je suis avec toi, Cartouche. Moi aussi.
Sidonie Bonnet.
Alors cette guerre est aussi la mienne.
Liberté ou la mort.
Liberté ou la mort.
Thomas Huguet dans Cartouche.
Une aventure inédite en deux parties.
À découvrir sur
RTL.
Ah mais vous faites des heures sup, Thomas.
Oui, moi, Cartouche, c'est moi. Et d'ailleurs, Cartouche s'est marié, on le racontera tout à l'heure. Peut-être que vous seriez sa femme dans cet
avec
épisode
vu à la télévision
avec Frédéric Diffenthal. Bah, il les vole, c'est ça le problème. Il y a aussi un Cartouche qui a inspiré le cinéma, évidemment. L'inoubliable Jean-Paul Belmondo.
La taupe, prendre quoi écrire. Parce que tu sembles au mieux avec lui, tu vas lui proposer un petit marché. Tu me porteras ce billet à Férussac. Écris. Je me permets, monsieur le lieutenant général, d'user de votre serviteur Manichon, porteur des présentes, aux fins d'un marché qui me plairait. Contre quoi je vous soumettrai une liste de mes créatures. 3 commissaires au blé, au vin et au sel.
Pas si vite.
4 procureurs, 12 sergents du guet. Sinon,
on jongle avec des diamants, mais on vit sous la terre.
Les hommes commencent à se plaindre.
Ça t'intéresse plus de faire trembler le royaume?
Vous ne voyez pas qui est amoureux? Donne-moi ces diamants.
Non, tout ce que tu veux, mais pas ça.
Tu préfères trembler pour une femme? C'est pas vrai, Dominique.
Réponds, Dominique. Ça me regarde.
Gilles Henry, vous êtes historien, écrivain. Pourquoi le mariage de Cartouche, c'est une date importante, un moment important?
Eh bien, parce que c'est un de ces documents qui apparaît alors même que personne n'y croyait. On imaginait que Louis-Dominique Cartouche, illettré, parce que lors de son interrogatoire, il a signé, ou du moins apposé sa marque, une simple croix, au bas du document.
Quand il a été arrêté.
Quand il a été arrêté et que le jugement l'a condamné à mort. Et puisque je suis détective de l'histoire, en quelque sorte, j'essaie toujours d'aller récupérer les documents là où ils sont, ce que j'ai essayé de faire. J'ai donc posé, ça c'est la méthode de recherche, j'ai donc posé une fourchette de dates entre lesquelles il avait été susceptible de se marier. L'état civil de la ville de Paris a disparu lors de l'incendie de la commune en 1871. Nous n'avons donc plus d'état civil. Pour y remédier néanmoins, on peut travailler dans les minutes notariales. Et là, j'ai travaillé sur les 122 études. J'avais mis une fourchette entre 1715 et 1725. Et 122 fois, j'ai essayé de trouver un mariage hypothétique de
Cartouche.
Louis-Dominique Cartouche et de Marie-Antoinette, car c'est son prénom, Marie-Antoinette Néron. Et j'ai commencé par consulter les répertoires au microfilm. Et puis un beau jour, en tournant les pages et les pages, brusquement, toc, j'étais sur le mois de juin 1720. J'allais assez vite malgré tout, parce qu'il fallait abattre un petit peu la tâche. Et brusquement, j'étais à une page, mais j'avais enregistré quelque chose. Je reviens à la page d'avant et je vois contrat de mariage Louis-Dominique Garthausen, Marie-Antoinette Néron, 30 juin 1720. C'est un dimanche, c'est le dernier acte reçu par le notaire, et ce n'est pas seulement un seul notaire qui établit l'acte, maître Duport, rue de Bussy, mais également maître de Savigny. Maître de Savigny, à l'époque, c'est le notaire des comédiens français. Et donc, j'ai un contrat de mariage, qui d'ailleurs enregistre des sommes d'argent non négligeables qui sont apportées là par les parents Cartouche et un peu par les parents Néron. En clair, c'est du blanchiment d'argent. Et surtout, cet acte se termine, 3 pages, se termine par les signatures. Et on a la signature de Garthausen, une signature que je connais bien, c'est celle du père. Elle est absolument identique aux autres exemplaires que je peux posséder. Et juste en dessous, Louis-Dominique Garthausen.
Et c'est bien donc Cartouche n'était pas illettré.
Sa maman signe également, Catherine Delamare, et une sœur également, Charlotte Garthausen. On a donc là un exemplaire indubitable, car qui pourrait imaginer que les deux notaires, le notaire principal en particulier, est celui du cardinal de Noailles, l'archevêque de Paris. On ne peut pas imaginer qu'il ait accepté de faire un faux. C'est donc bien les signatures authentiques, et voilà donc que Cartouche possède, disons, l'écriture. Plus que ça, les inventaires après décès de la famille, en tout cas de la famille maternelle, les Demare, donnent...
Donc la mère de Cartouche.
De la mère de Cartouche, donne des maîtres tonneliers déchargeurs de vin, donc une condition qui n'est pas négligeable, ou encore des maîtres tireurs d'or et d'argent. d'argent, ceux qui fabriquent les fils les plus fins d'or et d'argent pour réaliser des décorations sur la bâtisse la plus fine.
Donc c'est ce que vous racontez dans votre livre Cartouche Roi du pavé de Paris, publié aux éditions du Rocher. Je voudrais qu'on comprenne bien qui il était, parce qu'on a dans les films l'image d'un héros plutôt positif, bandit au grand cœur, sauf que Cartouche était aussi un meurtrier.
Alors hélas, il y a deux périodes, entre les années 1717-1721 dont je parlais tout à l'heure, il y a la période jusqu'à 1720 où il se contente de vols importants, hein, hôtel des ambassadeurs, rue de Tournon et autres, donc des diamants qui sont subtilisés dans les propriétés. Et puis la deuxième partie, 1720-1721, où on a effectivement trois meurtres, dont celui de Jean Huron.
Qui Jean Huron?
C'est un des exempts de la police qui le poursuit, qui le pourchasse.
Donc il tue un policier?
Non seulement il en tue un, mais il en tue même un deuxième, Pépin, d'un coup de pistolet cette fois. Il a véritablement explosé dans la violence. Et il faut dire que la période est quand même une période particulière, cette régence, car c'est l'époque, et ça explique l'essor peut-être de la troupe de Cartouche, c'est l'essai du nouveau papier-monnaie, enfin du moins du crédit, qui est organisé par John Law à la demande du régent.
Mmh. Et c'est une expérience. Donc on rappelle, entre 1720, la mort de Louis XIV et le règne de Louis XV.
Voilà. Qu'est-ce que ça va changer alors dans la manière de voler de Cartouche et de sa bande?
On est d'abord dans une période, c'est un nouveau siècle. On vient d'échapper à la pesanteur de Louis XIV et c'est un siècle qui commence à être celui des Lumières. On a donc tout un état d'esprit et on va avoir... Comme il y a quelques années la bulle informatique, il y a eu la bulle financière qui a permis à tout le monde d'essayer de gagner de l'argent.
Alors, par Cartouche, on a profité, mais après avoir tué ces deux policiers, il va y avoir une vaste opération de police contre lui. Je résume un petit peu, il est trahi par son associé, il est arrêté. Comment ça se passe? Il est jugé, torturé? Racontez-nous la fin de sa vie.
Il est arrêté le 14 octobre 1721. On a d'ailleurs des gravures en couleur qui représentent toute la scène. Effectivement, il est arrêté avec trois complices dans un cabaret sur la dénonciation donc de Grotius du Châtelet. Il est emmené dans la prison. Ensuite, on va le faire passer à la conciergerie. On va donc également, bien sûr, lui faire subir un interrogatoire. Alors, un interrogatoire un petit peu musclé. C'est celui des brodequins. Il est assis. On met autour des jambes des cordes. On prend des coins de bois et on enfonce un coin. Es-tu le voleur Louis Cartouche qui est là? Car il a continué à donner le nom de Delamarre ou de Bourguignon. Non, je n'ai rien volé. Un deuxième coin, un troisième coin.
Il va avouer finalement.
Chaque fois la question. Mais on lui met où le
jeu? Mais je vous le fasse, Thomas.
Entre la corde et la peau.
Et la jambe.
Et la jambe. Évidemment, les chairs éclatent.
J'ai compris.
Et on en fait 5, 6, 7, 8. Et il tient les 8 coins avant de s'effondrer. Il n'avoue pas. Alors, on se propose de lui faire absorber le traitement de l'eau, c'est-à-dire avec l'entonnoir, de remplir le personnage allongé de plus de litres d'eau qu'il fait. C'est une douleur énorme sur l'estomac. Mais auparavant, on va quand même l'examiner parce qu'il y a un collègue, Magdelaine, qui est mort étouffé la veille. Alors les médecins sont prudents, surtout les gens de police aussi, et on l'examine. Il a une petite difficulté à l'aine, donc on ne va pas lui faire ce traitement-là.
Mmh. Mais il va finir par avouer, il va finir par être exécuté.
Il va finir par avouer et il va également finir par constater en montant sur le lieu, sur la place de Grève, là où est situé l'échafaud, il a jusqu'au bout pensé, espéré, cru que ses complices allaient venir le délivrer. Ce qui n'est pas le cas, il ne voit personne. Alors, brusquement, il dit « Oui, je suis Cartouche et je vais parler ». Et il parle, et c'est ce que l'on appelle le testament de mort, dans lequel il délivre le plus grand nombre de noms de complices. Et la police va chercher tous ceux qui sont cités pour approfondir l'enquête.
À découvrir dans votre Cartouche Roi du pavé de Paris, livre passionnant, Gilles Henry, publié aux éditions du Rocher.
Vous écoutez RTL.